Elle aimait pourtant ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, mon invité est Marianne Colombier. Bonjour Marianne.
Bonjour Irène.
Marianne, vous êtes née le 8 octobre 1959 à Saint-Étienne dans la Loire. Vous êtes la deuxième d'une fratrie de trois enfants. Vous avez une sœur aînée et un frère cadet. Vous passez un bac littéraire à Paris, mais vous faites vos études supérieures à Toulouse-Mirail. Vous obtenez une licence de philosophie et un DEUG d'arabe classique. Aujourd'hui, vous êtes auteur, compositeur, interprète et vous travaillez en parallèle pour plusieurs maisons d'édition. Mais avant de nous parler de tout ça, avant d'écouter vos chansons également, quel genre de petite fille étiez-vous ?
Alors, je dirais que j'étais une petite fille plutôt sage. Ça s'est un peu gâté par la suite, mais petite fille, j'étais plutôt sage, plutôt bonne élève, plutôt très soucieuse de correspondre à ce qu'on attendait de moi. À côté de ça, j'étais passionnée d'équitation. Je dessinais énormément, j'aimais la musique, j'avais déjà une fibre artistique. Voilà, et j'étais plutôt, oui, bonne élève.
Vous avez appris un instrument de musique ?
Oui, j'ai commencé par le piano.
Donc toute petite ?
Toute petite, j'avais 8 ans à peu près, oui. 8-9 ans. Et puis j'ai continué avec la guitare vers l'âge de 12 ans.
D'accord.
Voilà. Donc j'ai cessé mes études de piano assez rapidement et j'ai basculé sur la guitare, si je puis dire.
Sans
voilà.
Regret ?
Le piano ?
Oui.
Ah si, c'est un regret qui reste, c'est le regret de ma vie de pouvoir continuer le piano. Ça,
il
n'est
jamais
sûr.
Trop tard. Pour le
Absolument.
Piano, il n'est jamais trop tard.
J'ai repris quelques cours effectivement à l'âge adulte et j'ai un piano chez moi, mais effectivement, comme vous dites, il n'est jamais trop tard et je m'y remets de temps en temps, oui.
Mais vous continuez quand même la guitare ?
Ah oui, parce que la guitare, c'est vraiment
votre
mon
instrument
d'accompagnement pour mes chansons, oui. Oui, j'ai plutôt développé l'apprentissage de la guitare. Et il faut dire aussi que pour quelqu'un qui bouge un peu, c'est beaucoup plus pratique de se déplacer avec une guitare qu'avec
un piano. Bien sûr. Donc il y a eu la musique, il y a eu la danse, l'équitation,
oui.
Pardon.
Oh, oui, 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 j'étais vraiment très très passionnée de chevaux pendant toute ma jeunesse. À un moment, j'ai même envisagé, quand j'étais ado et que je me cherchais un peu, d'en faire mon métier, de vivre avec les chevaux. Ce qui m'intéressait dans l'équitation, c'était pas le côté compétition, obstacle, monte à l'anglaise, etc. Moi, ce que j'aimais, c'était le contact avec la nature que l'équitation me permettait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup monté dans un lieu qui est très cher à mon cœur et qui se situe pas très loin de Saint-Étienne, ma ville natale, au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, où mes parents ont une maison, où j'ai donc passé vraiment toutes mes vacances d'enfant. Et où le voisin, le plus proche, était donc un club hippique. Donc je rêvais en passer toutes mes vacances d'enfance et d'adolescence dans les pieds des chevaux, quoi. Et donc ce qui était super, c'est qu'on partait faire des grandes balades, des randonnées dans cette région qui est absolument magnifique, sauvage, et qui est très très belle et qui est toujours très chère à mon cœur et où je vais d'ailleurs très régulièrement.
Marianne, vous étiez une enfant solitaire ?
Non, en fait, pas du tout. J'avais beaucoup d'amis. J'étais une enfant très... oui, j'avais effectivement un...
Stop, Jean-Loup. Marianne, étiez-vous une enfant solitaire ?
Non, pas vraiment. J'avais beaucoup d'amis. J'étais très, très sociable. À l'école primaire, j'avais des copines. Et puis, au collège, j'avais toute une bande de copains. En plus, à l'époque, nous habitions dans une petite ville d'Auvergne qui s'appelle Rion. Et où la scolarité que j'ai faite à partir de la sixième se déroulait dans un collège qui venait juste de s'ouvrir à la mixité. Au départ, c'était un collège de garçons. Donc, nous étions trois filles pour 30 garçons. Et donc nous avions...
Quel apprentissage ?
Absolument, mais bon, c'est vrai que j'avais un côté un peu garçon manqué, mais je crois que je n'avais pas trop le choix à l'époque. Et du coup, on avait toute une bande de copains garçons avec qui on faisait des tas de choses, on s'invitait à tous nos anniversaires. On était vraiment très très proches, très fidèles les uns avec les autres. Et puis on s'est perdu de vue, et grâce à la magie de Facebook, on s'est retrouvés
ça, c'est
30
chouette,
ans,
ça.
40 ans après. Oui, c'est vraiment super. Donc, j'ai retrouvé mes copains d'enfance que je n'ai pas vus physiquement depuis qu'on était enfant et ado. Et donc, de voir leurs photos d'adultes sur Facebook, c'est un peu surprenant, mais ça permet aussi de faire face, de se confronter au temps qui passe. Et je pense qu'ils sont aussi surpris de me voir que moi de les voir.
Quelle était la place de la lecture ?
J'aimais bien la lecture, oui. J'aimais beaucoup la lecture, d'autant plus que j'avais un papa qui était absolument féru de littérature. C'était un homme extrêmement cultivé qui avait une passion pour les livres. D'ailleurs, dans sa maison de Duchambon-sur-Lignon, il y a une quantité de livres absolument inimaginable. Donc très tôt, il m'a ouverte à la lecture, moi et mes frères et sœurs. Tous les trois, c'est vraiment ça qui nous a légué, c'est l'amour de la culture et la lecture. Et pour ça, j'ai eu la chance d'avoir un papa comme lui.
Oui, c'est bien.
C'est une grande valeur qu'il nous a transmise.
Une grande ouverture.
Tout à fait. Ouais.
Vous avez voyagé avec votre famille, enfant ?
Pas avec ma famille, non, mais je me suis rattrapée beaucoup après.
D'accord. Vous n'aviez pas des parents qui vous
faisaient
découvrir le monde ?
Pas du tout, puisque, je vous dis, toutes nos vacances se déroulaient dans cette maison de famille qu'ils avaient achetée donc, quand on était très très jeunes. Tout petit, au Chambon-sur-Lignon, et on était tous très attachés à cette maison, et donc on y a passé toutes nos vacances, et du coup on n'a pas du tout voyagé. Voilà.
Vous étiez proches tous les trois ?
Alors, vous savez, quand on est numéro 2 dans une fratrie,
c'est la mauvaise position,
un petit peu inconfortable. Oui. Donc aujourd'hui on est très très proches, dans le sens où on est très différent, mais où il y a énormément d'amour entre nous trois. Quand on était petits, il y a eu forcément, entre ma sœur aînée et moi,
des conflits.
La rivalité absolument, enfin, en général, assez incontournable entre deux sœurs.
Quelle est votre différence d'âge ?
Pas grand-chose, on a 2 ans et demi.
Oui.
Voilà. Avec mon petit frère, qui était un peu plus éloigné de moi, à peu près 4 ans, pas tout à fait 4 ans, oui, on était très proches aussi, on était très complices. Enfin, j'étais soit, vous savez ce que c'est, quand on est soit dans les deux grands, soit dans les deux petits. À mon grand âme, j'étais plutôt dans les deux petits, souvent, alors que j'aurais préféré être dans les deux grands, mais enfin voilà, moi, je me suis construite comme ça. Et comme par hasard, j'ai reproduit ça avec mes propres enfants, puisque j'ai une fille aînée et un deuxième fils, donc je me retrouve encore dans une situation de trio avec moi au milieu, une grande fille et un petit garçon.
Oui, sauf que là, c'est vous la maman. Alors, vous passez votre bac à Paris.
Oui.
Comment ça se fait ? Vous faites le lycée à Paris ?
Ah non, ça serait beaucoup trop simple. Non, parce que moi, ma grande devise dans ma vie, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Oui, d'accord.
Voilà. J'ai fait donc ma terminale à Rouen, en Normandie. Mais il se trouve que j'avais choisi un bac littéraire. Enfin, au départ, j'avais choisi un bac scientifique, puisque j'avais fait une... Alors là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que je parle encore en ABC. Donc, le bac A, c'était littéraire, B, sciences éco, et C, c'était maths. Donc, j'avais fait une seconde et une première C, à Paris. Et puis, ensuite, j'ai fait... mes parents ont déménagé à Rouen, donc j'ai fait ma terminale à Rouen, et j'avais été donc inscrite en terminale D, qui était donc sciences naturelles. Parce que j'étais pas assez bonne en maths pour faire une terminale C. Et puis en arrivant dans cette terminale D, je me suis dit, mais c'est pas du tout fait pour moi ça. Je venais de retrouver une copine, parce qu'on avait vécu à Rouen dans mon enfance, et je venais de la retrouver, elle était en terminale A, et j'avais absolument pas envie de me retrouver avec les scientifiques de terminale D. Et je suis allée voir le proviseur sans en parler à mes parents. Je lui ai expliqué, j'ai défendu mon truc. J'ai dit, écoutez, je veux changer de classe. Je crois que j'étais assez convaincante. Il a accepté. Quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai mis devant le fait accompli. Donc, évidemment, ça a été très, très mal vécu. Donc, j'ai dû quand même justifier ce petit caprice, entre guillemets, en étant très bonne élève en philo. Et de fait, j'ai été très bonne élève en philo. Voilà, donc tout ça pour dire. Alors pourquoi j'ai fait ma terminale à Rouen et j'ai passé mon bac à Paris ? C'est que j'avais donc choisi une option A, 3, c'est-à-dire 3 langues vivantes. Donc j'avais l'anglais et l'allemand classique qu'on faisait tous en langue 1 et langue 2. Et puis j'avais choisi une troisième langue optionnelle qui était l'arabe, dont j'avais commencé l'apprentissage à Paris. Et comme au rectorat de Rouen, il n'était pas du tout prévu de faire passer une option d'arabe aux gens qui passaient leur bac en arabe. On m'a envoyée à Paris.
C'était rarissime en plus à l'époque. Hein.
C'était complètement rarissime. Ouais. C'était donc dans la fin des années 70. Ouais. C'était rare. Donc j'ai passé mon bac à Paris, mais je n'ai même pas eu à passer l'option en arabe, puisque j'ai eu du premier coup. Je suis allée passer mon bac à Paris alors que je n'ai même pas eu besoin de passer l'arabe.
Qu'est-ce que vous aviez envie, alors que vous étiez en terminale, de faire plus tard comme métier ? On se dit, tiens, je ferai tel métier ou tel métier. À ce moment-là, vous, à 17-18 ans, en terminale, vous avez une envie de métier. Quelle est-elle ?
Non, j'avais qu'une seule envie, foutre le camp. C'était de foutre le camp et de me rapprocher de la nature. Donc, c'est là où je vous disais tout à l'heure que petite fille, j'étais très sage, mais que ça s'était un peu gâté par la suite. C'est-à-dire que, alors que j'avais eu des bons résultats scolaires, j'ai eu de cesse que de partir, effectivement, une fois le bac en poche, parce que pour moi, c'était une espèce de contrat que je devais à mes parents. Donc, une fois que le contrat était rempli, j'avais
plus une envie de liberté qu'autre chose.
Mais complètement. Et puis, il y avait une envie de liberté, une envie de quitter un milieu, finalement, assez bourgeois, assez conventionnel et dans lequel je ne me retrouvais pas vraiment. Et donc, ce que j'ai fait juste après le bac... Je me suis débrouillée pour trouver des stages dans des fermes. Et aux grandes dames de mes profs, je suis partie, alors que j'aurais pu faire cagne, hippocagne, je suis partie garder les moutons dans les Alpes. Et ensuite, j'ai trouvé un autre stage en Bourgogne, où j'ai fait du fromage de chèvre.
Sans vous poser de questions sur... En fait, vous viviez le moment présent. Vous n'aviez pas une envie de métier, vous n'aviez pas de projection à ce moment-là.
Non.
Vous étiez sur du court terme.
C'est-à-dire que mon urgence à l'époque, c'était de me retrouver. Parce que, oui, de me construire moi en tant que personnalité. Je n'avais pas du tout d'objectif, d'ambition professionnelle. Pour moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était d'être moi-même, quoi. D'arriver à
de sortir du carcan familial.
Ouais. Et puis de me trouver moi, de découvrir qu'en fin de compte, même si je ne correspondais pas à l'image à laquelle j'aurais dû correspondre, j'avais quand même le droit d'exister tel que j'étais. Voilà. C'était ça, pour moi, c'était ça l'urgence, c'était ça la formation, c'était ça ma première formation, avant toute autre chose.
Alors, Marianne, expliquez-moi, vous avez votre bac, donc vous passez votre bac à Paris, vous partez dans la nature, en stage.
Ouais, c'est ça.
Et comment vous vous retrouvez à Toulouse pour rentrer à la fac ?
Oh, mais il y a eu d'autres choses entre-temps.
D'accord, ça n'a pas été tout de suite après votre bac, vous n'êtes pas arrivée à Toulouse, vous n'avez pas fait la fac du Mirail tout de suite après.
Oh non.
Il y a eu plein d'épisodes.
Oui, il y a eu pas mal d'épisodes, donc l'épisode agricole dont je vous ai parlé.
Qui a duré combien de temps ?
Qui a duré quelques mois, ça n'a pas duré extrêmement longtemps, parce que, en fait, moi j'avais vraiment le... Oui, en fait, quand vous parlez de projet, c'est vrai que j'en avais quand même un, au fond. Oui, j'avais envie de travailler dans l'agriculture. Je voulais m'occuper d'animaux et vivre dans la nature. Et c'est pour ça que j'ai fait ces stages. Et puis je me suis aperçue très vite qu'il y avait quelque chose qui ne me convenait absolument pas dans l'agriculture et qui ne me conviendrait jamais. C'était le fait que qui dit agriculture dit forcément... mettre des animaux à mort à un moment ou à un autre. Et ça, c'était pas possible pour moi. Donc, j'ai laissé tomber l'agriculture et je suis partie aux États-Unis travailler dans un ranch avec des chevaux. Voilà.
C'était la première envie d'enfance.
Oui, absolument.
Qui se concrétisait.
Retrouver mon amour des chevaux.
Qui se concrétisait. Pourquoi les États-Unis ?
Alors parce
que... Une opportunité.
Absolument, une opportunité parce que entre la première et la terminale, mes parents m'avaient offert un séjour linguistique aux États-Unis pendant l'été. Donc j'étais reçue par une famille. Bon, c'était un organisme qui s'occupait de ça, donc ils avaient fait en sorte de me trouver une famille dont la fille avait la même passion que moi. Donc cette jeune américaine, effectivement, était passionnée de chevaux, donc elle avait son cheval. Personnel, ça a été mon rêve absolu. J'ai jamais eu mon cheval personnel, mais comme vous disiez tout à l'heure, il n'est jamais trop tard. Donc, on allait monter à cheval, c'était dans l'Illinois, pas très loin de Chicago. Et on allait monter à cheval dans ce ranch. Évidemment, pour moi, c'était le rêve absolu, dans ces grands paysages immenses. Et puis, je me suis aperçue que ce ranch embauchait des jeunes pendant l'été, parce qu'ils recevaient beaucoup d'enfants, etc. Donc, ils avaient toute une équipe de jeunes qui travaillaient dans ce ranch l'été. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri, 2 ans après, dans ce ranch pour y travailler pendant 3 mois. Et ensuite de ça, comme je me plaisais beaucoup aux États-Unis, j'ai fait quelque chose à l'époque qu'il est absolument impossible de faire de nos jours, c'est-à-dire que j'étais partie avec un visa de tourisme de 3 mois, et au bout de 3 mois, donc, quand mon travail dans ce ranch s'est terminé, j'avais vraiment envie d'en profiter pour visiter le pays. Donc, j'ai vendu mon billet retour, incroyable, on ne pourrait absolument pas le faire, et je suis partie faire le tour des États-Unis, plus ou moins en stop. Enfin, ce n'était pas vraiment du stop, c'était des gens que je rencontrais qui allaient quelque part, donc je leur demandais de m'amener, donc comme ça.
Alors, comme vous disiez tout à l'heure, c'était quand même une autre époque.
Oui.
C'était pour tellement de raisons différentes. Tout ce que vous dites, là, si on a de jeunes auditeurs, ils doivent halluciner d'entendre des choses comme ça. Mais effectivement, oui, c'était une autre époque. Et puis, il n'y avait pas les mêmes craintes. Alors,
Je suis quand même restée, comme ils disent, illegal alien pendant plusieurs mois. Et c'est vrai que c'était...
Et sans visa.
Oui, voilà, c'est ça, sans visa.
Illégalement.
Totalement illégalement. Clandestin.
De bons souvenirs de cette période ?
Oui, bien sûr.
Ah, c'était l'insouciance, là ?
Je ne pourrais pas dire que c'était vraiment l'insouciance, parce que j'étais quand même une adolescente plutôt tourmentée. Je me cherchais.
Et là, aux États-Unis, vous aviez quoi, 20 ans ?
Non, j'ai fêté mes 19 ans là-bas.
D'accord.
Donc, je suis partie à 18 ans, et voilà. Oui, c'est ça, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. J'étais vraiment une gamine. Donc, ouais, ça a été une expérience complètement déterminante, parce que ça, je crois que quand on vit quelque chose comme ça aussi jeune, ça donne quand même une sacrée force de caractère, et puis ça apprend une langue, ce qui n'est pas négligeable.
Bien sûr.
Et je crois que ce que je tire de cette première expérience très très jeune, c'est que finalement, j'ai pas eu peur après. Parce que quand on a vécu ça, partir comme ça à l'aventure avec des gens qu'on connaît pas, débarquer un jour, sonner une porte... en disant « est-ce que vous pouvez m'héberger ?» etc.
En étant si loin de sa patrie et de sa famille.
Et sans e-mail et sans portable, etc.
Et oui,
etc.
C'était une autre époque.
Ah bah oui, complètement.
Vous avez eu envie de rester faire votre vie là-bas ?
Oh non, 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 parce que j'étais vraiment dans l'esprit du voyage. Et ah oui, alors après, il y avait effectivement à ce moment-là, je voulais rester parce que j'avais un autre projet. C'était que j'avais des amis en France qui étaient skippers sur un voilier. Et ils avaient le projet, l'hiver suivant, de convoyer un voilier aux Antilles. Et donc, on s'était promis de se retrouver aux Antilles sur le voilier. Et le projet, c'était que je rentre avec eux en France, en traversant l'Atlantique, sur le voilier. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais rester aux États-Unis, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant voler des États-Unis aux Antilles, ça sera plus court que d'entrer en France. Donc, c'est ce que j'ai fait. On s'est retrouvés au bout de... Donc, voilà, je suis restée aux États-Unis, on va dire, de juillet à décembre, 6 mois. Et en décembre, je les ai retrouvés. J'ai retrouvé ces amis en Guadeloupe. Et on a fait pas mal de... On a sillonné dans les îles des Caraïbes, là, sur ce voilier. Et en fait... Moi qui avais prévu de rentrer avec eux en France, de traverser l'Atlantique, quand j'ai mis pour la première fois de ma vie, parce que tant qu'à faire, j'avais bien sûr jamais mis les pieds sur un voilier, et comme j'étais malade à crever, malade de mer, mais à mourir, donc j'ai dit, bon, ben écoute, je crois que je ne rentrerai pas en bateau. Donc du coup, je suis restée sur une petite île qui s'appelle, vous allez rire, là aussi c'était une autre époque, je suis restée pendant 3 mois sur une petite île qui s'appelle Saint-Barthélemy, et qui à l'époque était complètement fréquentable. Maintenant, j'y foutrais plus les pieds. Mais à l'époque, c'était avant tout ça, tout le showbiz et tout ce truc-là. C'était encore à peu près authentique. Et j'avais un petit copain à l'époque. On est resté 3 mois sur cette île à travailler. On a trouvé un job, moi, dans un hôtel, comme réceptionniste, puisque j'avais acquis la langue, donc j'étais parfaitement bilingue, anglais. Et lui, comme cuistot. Et puis le bateau est revenu nous chercher quelques mois après. On est allé à Porto Rico. De là, avec mon copain, on a volé pour le Mexique. On s'est fait une petite balade autour du Mexique. Et on est remonté aux États-Unis et on est rentré en Europe un an après, quoi, donc de juillet à juillet. Quoi, voilà.
Eh bien, Marianne, puisque nous revoilà en Europe, je vous propose tout de suite une première pause musicale. Et pour notre plus grand plaisir à tous, vous avez choisi Toulouse de Claude Nougaro. Alors, on écoute et on en parle juste après.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé de ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. Encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse.
Waouh!
Magnifique. Les frissons partout.
Oui, je crois qu'on peut l'écouter 500 000 fois, ça sera toujours pareil.
Absolument. Ouais.
Merci Claude.
Ah oui, merci Claude, vraiment.
Et puis merci Marianne de nous avoir fait ce choix et de nous avoir donné l'occasion de l'entendre. C'est toujours du bonheur.
Oui. Oui.
Vous rentrez en Europe.
Je rentre en Europe. Et oui, c'était vraiment important pour moi de passer cette chanson de Nougaro parce que je voulais quand même coller avec votre émission. C'était une émission qui se passe à Toulouse et je voulais quand même... Là, j'ai parlé de ma jeunesse après Toulouse, si je puis dire, avant Toulouse, hanté Toulouse. Et je voulais quand même faire ma déclaration d'amour à Toulouse. Et merci de me donner cette occasion, Irène, de le faire. Donc, je suis rentrée en Europe et je n'avais absolument rien à voir au point de vue de mes racines familiales avec Toulouse. On est plutôt, nous, de la région, comme je vous disais, de Saint-Étienne, le sud-est, voilà. Ardèche, Loire, j'ai même des racines provençales, d'autres racines alsaciennes, donc c'est complètement la partie est du pays. Et Toulouse, j'avais absolument aucune raison d'y mettre les pieds. Sauf que j'ai rencontré un ami à Paris, quelqu'un enfin, qui était le petit copain d'une amie très chère à l'époque, qui était toulousain. Et donc quand je suis rentrée en Europe, je me souviens pas trop des dates, mais enfin bon, bref, c'était avant ou après, peu importe, je crois que c'était plutôt après. Un jour où il rentrait à Toulouse pour le week-end, parce qu'il habitait Paris, donc, il m'a proposé de venir avec lui. J'ai dit, allez hop, on y va, je ne connais pas Toulouse, ça va être l'occasion. Donc j'avais une vingtaine d'années à l'époque. Et je suis arrivée à Toulouse donc, avec cet ami, Bernard Guillaume, qui est que beaucoup de Toulousains connaissent, parce qu'il a tenu pendant très très longtemps le magasin Action Photo, place de l'Ormeau, là au bout de la rue Saint-Exupéry. Donc Bernard, qui était un très très bon ami jusqu'à maintenant, c'est lui qui m'a fait découvrir Toulouse. Et ça a été le coup de foudre, littéralement. Je me suis dit, mais cette ville, elle vibre, elle est belle d'abord, elle est belle, elle est magnifique du point de vue esthétique. Et en plus, il y a une vibration. Je me suis vraiment retrouvée, moi qui me cherchais toute jeune. Je me suis dit, c'est une ville pour moi. Et je n'étais pas du tout encore dans l'esprit de faire mes études, voilà, puisque j'étais encore dans cette démarche de voyager, de me chercher, etc. Mais je m'étais promis à l'époque que si un jour je me casais un peu, enfin je me calmais un peu et que je reprenais mes études, ce serait à Toulouse. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à Toulouse quelques mois plus tard, où je me suis inscrite en licence de philo au Mirail. Voilà, en ne connaissant absolument rien à Toulouse. C'est vraiment un parachutage, mais complètement choisi et assumé.
Vous avez travaillé en parallèle de cette inscription à la fac ?
Oui, parce que j'avais pas un rond, parce que mon papa, évidemment, n'était pas du tout d'accord avec ma démarche de quitter les études et de faire tout ce que j'ai fait, tout ce que je viens de vous raconter. Donc, il m'avait bien sûr coupé les vivres, ce qui est tout à fait logique. Hein. Et quand je suis repartie une fois de plus à Toulouse, il s'est dit, bon, ça y est, elle recommence encore à faire n'importe quoi. Et donc, la première année, ça a été un petit peu chaud parce que je me suis inscrite en fac et j'avais vraiment pas un rond. Ma maman m'a filé un peu de fric en douce, en cachette de mon père pour que je puisse quand même avoir un loyer. Mais pour le reste, je me débrouillais. Donc j'ai fait des ménages. Enfin voilà, je vivais
tout
vraiment.
Tout le petit boulot que peut faire un étudiant.
Un étudiant, mais voilà. J'étais vraiment, vraiment pas riche. Et en fait, la première année de philo s'est très bien passée. J'ai eu brillamment ma première année. Ce qui fait que mon papa s'est dit, bon, ça y est. Elle est rentrée dans le droit chemin et il s'est mis à m'aider pour le reste de mes études. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de continuer à bosser. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans, comme j'avais eu cette expérience aux Antilles de réceptionniste bilingue dans un hôtel. J'ai travaillé pendant 2 ans à l'Hôtel de France, rue d'Austerlitz, près de la place Wilson.
Oui.
Donc je travaillais le soir entre 5 et 8 à peu près. Et tous les week-ends, de 7h du matin à 7h du soir, le samedi et le dimanche. Donc, quand j'avais pas cours, quoi. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans cet hôtel.
Moi, je voudrais revenir sur... Vous décidez de reprendre vos études.
Oui.
Pourquoi ? Pourquoi cette démarche ? Parce que vous vous dites, il faut que j'ai un métier, il faut que je m'installe dans la vie. Pourquoi cette démarche de... Après tous ces voyages, après cette coupure énorme, et puis entre parenthèses, chapeau, parce que quand on arrête une scolarité, c'est très difficile. surtout en étant une jeune femme comme ça, qui a envie de excusez-moi du terme, de bouffer la vie, d'un seul coup s'arrêter et de repartir sur les bancs de l'école. C'est très difficile. Et en plus, comme vous venez de le dire, vous le faites brillamment. Mais c'est la démarche qui m'interpelle à ce moment-là de votre vie. Pourquoi cette démarche ?
Excellente question. Une fois de plus, ce n'était pas du tout dans un objectif de m'installer dans une profession quelconque. Je me disais très, très clairement à l'époque, de toute façon, la philo, ça ne mène à rien. La seule chose à laquelle ça mène, c'est le professorat, et j'ai absolument pas envie d'être prof. Je fais la philo pour... je crois que c'est une façon de continuer à voyager. Je faisais de la philo pour...
C'est joli, ça.
Pour construire mon esprit comme j'avais construit ma personnalité en voyageant. C'était vraiment ça. Et puis, je me posais des tas de questions. Et la philo me l'avait prouvé en terminale, puisque j'étais passée d'une orientation scientifique à une orientation philosophique. Je savais... par cette expérience de terminale, que la philo pourrait m'aider à répondre à certaines questions que je me posais.
Et le doc d'arabe classique ?
Alors ça, ça venait donc de cette opportunité que j'avais eue. Ouais, c'est très important ça dans ma vie. Quand j'étais en seconde à Paris, au début de l'année scolaire, donc j'étais inscrite en anglais, allemand comme tout le monde, et puis au début de l'année scolaire, on nous a proposé, sans doute parce que c'était Paris, de faire une troisième langue optionnelle qui ne rentrerait pas du tout dans le cursus scolaire, mais c'était en option, c'était pour ceux qui voulaient. Et dans la liste des langues optionnelles qu'on n'apprend pas au lycée, il y avait des tas de choses comme le chinois, le japonais, le suédois, le wolof, plein d'autres choses, et puis l'arabe. Et pourquoi j'ai décidé de faire l'arabe ? Je ne sais pas trop, je me suis beaucoup posé la question. Par romantisme, j'ai décidé que j'avais des racines arabes lointaines, que c'est une forme d'atavisme, ce qui n'est peut-être pas complètement faux d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, je me suis mise à faire de l'arabe en seconde et première, d'où mon choix de faire une terminale littéraire option langue, troisième langue. Et donc, ben voilà, quand j'ai repris mes études au Mirail, j'ai vu qu'il y avait un UR d'arabe. Donc, je me suis dit, allez hop, je vais continuer les études d'arabe au Mirail. Et ça a été complètement déterminant dans ma vie, puisque j'ai fait donc un doc d'arabe, au bout duquel j'ai eu l'opportunité, par une annonce justement qui était passée à la fac du Mirail, d'aller continuer mes études au Caire, en Égypte, en obtenant une bourse du ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai passé le concours nécessaire à obtenir cette bourse, je l'ai eu, et je suis partie, donc j'ai passé mes 4 ans d'études à Toulouse, et après quoi je suis allée au Caire pour continuer mes études d'arabe.
C'est formidable ça.
C'était formidable.
Quelle expérience.
Ah oui, oui, parce que le Caire c'est waouh, j'avais jamais mis les pieds là-bas, et c'est une ville extrêmement forte à tout point de vue. Et puis en plus, ce qui était rigolo, c'est que quand on apprend l'arabe à l'école, enfin en fac en France, on apprend l'arabe classique, c'est-à-dire l'arabe hyper littéraire, l'arabe coranique, etc., qui est un arabe qu'on ne parle absolument pas dans la rue. Alors c'était assez drôle, parce que moi je suis arrivée au Caire en baragouinant 3 mots d'arabe classique, ce qui faisait beaucoup rire les gens, parce que c'est un petit peu, pour vous donner l'équivalent, c'est un petit peu comme si vous vous mettiez à parler du français du XVIIIe siècle, hein, en entrant dans un café, hola mon brave, baillez-moi,
oui, bien sûr.
Ce genre de truc. Bon, c'était, voilà, c'est l'équivalent que je peux trouver, donc ça faisait beaucoup rire les gens. Et puis petit à petit, bien sûr, je me suis mise à, en prenant beaucoup le taxi, parce que c'est un très très bon moyen d'apprendre l'arabe, c'est de prendre le taxi. Au Caire, ce qui est très facile parce qu'on prend le taxi comme on prend le métro, c'est pas cher et puis ça va partout. Et donc de parler avec le chauffeur, voilà. Et puis bien sûr, les cours que je prenais au centre culturel français.
Combien de temps vous êtes restée au Caire, Marianne ?
Je suis restée, alors, j'ai fait plusieurs séjours puisque la première fois, donc pendant mes études, pour mes études, j'y suis restée 6 mois. J'ai été rapatriée sanitaire à cause d'une hépatite virale.
Mince.
Mais c'est pas bien grave. Mais assez longtemps pour tomber amoureuse d'un Égyptien. Ce qui fait que je suis rentrée en France, je me suis un peu cherchée là aussi.
Mais là, vous rentrez sur Toulouse quand vous rentrez, au bout des 6 mois du Caire ?
Je suis restée à Paris.
Vous êtes restée à Paris.
Ouais. Mes études à Toulouse étaient terminées. En rentrant du Caire, je suis restée à Paris. J'ai cherché un vague boulot en utilisant ma langue arabe. Et puis en fin de compte, j'ai trouvé un stage, je suis complètement fourvoyée, un stage de secrétariat au commerce international, justement trilingue arabe. Bon, c'était une façon de faire quelque chose, quoi, mais c'était un milieu qui ne me convenait pas du tout. Bref, tout ça pour préparer en fait inconsciemment mon retour au Caire, parce que pendant ce temps-là, je correspondais avec le monsieur duquel j'étais tombée amoureuse.
Et là, qui dit correspondance, dit lettre échangée.
Complètement, et c'était, alors là, je vous dis
parce
pas
qu'on n'est pas sur les moyens de voilà. communication d'aujourd'hui.
C'était lettre écrite, c'était dans les années 85, 6, 7, par là. Et donc, et non seulement ça, mais en arabe, s'il vous plaît. Parce que le monsieur en question ne parlait pas un mot de français. Donc, je ne vous dis pas les progrès que j'ai fait en arabe. Donc, je mettais des heures et des heures avec mon dictionnaire à côté à écrire en arabe. Et puis après, il me répondait en arabe. Donc là, j'ai fait des gros progrès. Jusqu'à ce que je décide de tout plaquer puis d'aller
vivre là-bas.
D'aller vivre là-bas, dont acte. J'ai plaqué le studio que j'avais à Paris. Et je suis partie. Et nous nous sommes mariés parce que c'était quand même beaucoup plus simple pour deux étrangers de se marier. Et voilà. Et donc, nous avons vécu un an et demi à peu près au Caire.
Vous avez acquis la double nationalité en vous mariant là-bas ?
Non. Alors, c'est assez bizarre, mais en même temps un peu regrettable. C'est que, en fait, à un moment, j'ai essayé d'obtenir la nationalité égyptienne parce que nos enfants qui sont nés par la suite, là, j'anticipe un petit peu, ont la double nationalité. Et mon mari l'avait acquise aussi en venant en France. Donc je voulais être comme tout le monde, avoir la double nationalité. Et puis ça s'est révélé tellement compliqué, il fallait prouver des tas de trucs. En plus, mon mari fait partie de la minorité chrétienne égyptienne, qui est quand même un peu ostracisée là-bas, il faut bien le dire. Il est d'origine copte, grec orthodoxe copte. Et donc, en tant que chrétien, il fallait que lui aussi prouve que ses parents étaient bien égyptiens depuis plusieurs générations ici et là. Bon, c'était tellement compliqué que j'ai lâché l'affaire. Et c'était pas tellement handicapant parce que ce qui est regrettable, c'est que effectivement, quand vous êtes étranger en Égypte, vous êtes beaucoup mieux traité que quand vous êtes étranger en France. Donc, j'avais pas vraiment besoin de cette nationalité.
Voilà. Et vous restez combien de temps ? Donc, une fois marié, 2 ans, 1 an et demi ?
Oui, c'est ça, 1 an et demi. Et puis après, je me suis aperçue que c'était beaucoup plus difficile de vivre au Caire en tant que épouse d'Égyptien qu'en tant qu'étrangère, parce que là, j'étais devenue égyptienne et que je subissais la pression que subissent les femmes et que je n'ai pas supportée. Et donc, nous sommes rentrés à Paris avec mon mari, on est divorcés entre-temps, mais on est restés en très bon terme.
Qui ne connaissait pas la France.
Qui ne connaissait pas la France, qui ne parlait pas un mot de français et qui a dû s'adapter aussi.
Mais vos enfants sont nés à Paris.
Nos enfants sont nés en France.
D'accord.
Oui, oui. Ils ont acquis la double nationalité, mais ils sont nés en France. Voilà.
Et alors,
le retour à Toulouse.
À quel moment on vous retrouve toulousaine ?
On me retrouve toulousaine en 2000, c'est-à-dire peu après mon divorce, où je m'étais dit, mes enfants avaient déjà 11 et 6 ans, ou 10 et 5 plus exactement, oui, peu importe, et où je m'étais déjà dit à l'époque de leur naissance, mes enfants devront absolument grandir à Toulouse.
Oui, donc c'était vraiment un gros coup de cœur pour vous, ouais, qui avez vu tellement de villes et de pays. Là, Toulouse, c'était vraiment...
Pour moi, ça faisait partie de l'éducation que je devais à mes enfants. Et au moment de mon divorce, changement de vie, etc., j'ai pris mes enfants sous le bras et hop, Toulouse. Et on y est depuis 2000. Et on n'en a pas bougé. Et donc mes enfants ont effectivement grandi à Toulouse. Pour eux, c'est une ville... c'est leur ville, quoi. C'est la ville... de leur apprentissage.
Oui, parce qu'ils sont arrivés, comme vous dites,
ils sont arrivés très jeunes,
dans leur tendre enfance.
Voilà. Ce qui m'a aussi déterminée à revenir, au-delà du fait que j'avais gardé de très bons amis, etc., et que j'étais très attachée à Toulouse, c'est l'école de la Prairie, l'école de l'éducation nouvelle de la Prairie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça.
Bien sûr.
Voilà. Et pour moi, c'était très important aussi. Donc, on avait passé 2 années à Aix-en-Provence, où on avait déménagé de Blois. Oui, parce qu'entre-temps... On a pas mal bougé. Paris, Blois, Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence, on y était allé d'une part parce que mon ex-mari avait trouvé un travail de lecteur d'arabe à la fac d'Aix. Et d'autre part parce que à Aix-en-Provence, il y avait deux écoles, pas Montessori, mais Freinet. freiné. Et j'avais été tellement déçue par le système scolaire classique à Blois que j'avais promis à ma fille, je te sortirai de là et je t'emmènerai dans une bonne école. Voilà, donc freiné, très bonne école à Aix, ça s'est très très bien passé, mes enfants ont été très heureux là-bas. Mais ça s'arrêtait à la primaire, et comme ma fille rentrait en sixième et que je m'étais enseignée sur l'école de la Prairie, elle cumulait les deux avantages non négligeables d'être, un, à Toulouse, et deux, de correspondre à l'éducation que je voulais donner à mes enfants. Donc voilà les raisons pour lesquelles on s'est installé à Toulouse en 2000.
Alors, Marianne, vous arrivez à Toulouse pour vos 40 ans, à
absolument,
peu près.
Absolument, complètement.
Et justement, je vais faire une transition avec cela, puisque nous sommes au moment de notre deuxième pause musicale. Et on va vous écouter, on va écouter une de vos chansons qui s'appelle « 40 ans au vent d'autan ». Et tout de suite après, on parlera de vous en tant qu'auteur, compositeur, interprète. On écoute, Marianne.
Soleil roux de l'été indien étire l'ombre dans ton dos. Tu te retournes et tu te souviens de tes rêves enfuis à volo. Laisse tes souvenirs au vent mauvais, au vent d'automne. Oui, laisse-les partir. Accueille ce qui vient devant. Autant t'en apporte le vent. Tu as 40 ans. Tu en auras livré des batailles, malgré tes envies d'ailleurs, malgré tes amours feux de paille, pour rester fidèle à ton cœur. Ta force pour aller de l'avant, moi je sais bien d'où elle émane. Des secrets que te confie le vent, de tes racines occitanes. Laisse tes souvenirs au vent mauvais, au vent d'automne. Oui, laisse-les partir. Accueille ce qui vient devant. Autant t'en apporte le vent. Tu as 40 ans. Aux sources de ton pays Qatar, lorsque je reviens m'abreuver dans les eaux perses de ton regard, j'aime toujours autant me noyer. Entre les lignes de ton visage, ta vie m'emmène en promenade. Les cyclones ont creusé des sillages autour de tes lagons de jade. Laisse tes souvenirs au vent mauvais, au vent d'automne. Oui, laisse accueille ce qui vient devant, autant t'en apporte le vent. Tu as 40 ans. Il ne faut pas croire les adages, bien souvent la vie les dément. 20 ans n'est pas le plus beau des âges, même si ta fille a 20 ans. Pour pour son voyage au bout des saisons. Le mois d'août a fait ses valises, mais l'amour se plaît dans ta maison. La nostalgie n'est pas de mise, laisse tes souvenirs au vent mauvais, au vent d'automne. Oui, laisse-les partir, accueille ce qui vient devant, autant t'en apporte le vent. Tu as 40 ans.
Comment vous êtes arrivée à la chanson ? Parce que là, sur le début du parcours, on n'a pas du tout entendu parler de chanson. On n'a pas.
Là, c'est vrai.
Là, ça arrive maintenant.
C'est vrai, je me rends compte mais que j'ai absolument pas parlé de chanson. Mais je pense que ça faisait tellement partie de ma vie que c'était comme si je vous disais que je respirais, que je mangeais et que je dormais. Quoi.
D'accord.
C'est un petit peu de. Ouais, c'est... donc c'était pas nécessaire de le dire.
Vous avez commencé à composer jeune, en même temps que vous avez appris la guitare, c'est ça ? Ça correspond à ces années-là ?
Complètement. Mais moi, j'ai toujours beaucoup écrit, toute petite. Je faisais des.
Le besoin de vous exprimer ?
Ah oui, complètement. Ah oui, le besoin de m'exprimer. Dans un milieu où je n'avais pas tellement cette possibilité-là. Donc, il y avait le dessin, la bande dessinée.
Oui, tout ce qui est artistique, hein, comme vous disiez tout à l'heure en début d'émission, tout ce qui est artistique.
Oui. Donc, effectivement, la guitare m'a permis, de plus facilement que le piano, effectivement, de composer, de chanter. J'ai fait ça vraiment. Oui, j'ai commencé vers, je ne sais pas. Enfin, je crois que j'ai toujours écrit et puis que j'ai commencé à composer des chansons vers 12 ans. Et puis j'ai continué. Je suis partie aux États-Unis avec ma guitare. En rentrant des États-Unis, j'ai écrit plein de chansons. Voilà, donc petit à petit, j'ai écrit. Mais si vous voulez, comment dirais-je ? Bon, là, c'est un petit peu délicat, mais. Il y avait une forme d'interdit parental sur fantasmé ou pas, sur mon expression artistique. Ce qui fait que je faisais ça, je m'exprimais en chanson, etc., mais de manière complètement, clandestine quelque part. Et ce n'est que beaucoup plus tard, donc en fait quand j'étais à Toulouse, beaucoup plus tard, vers l'âge de 40 et quelques années, que je me suis enfin autorisée à m'exprimer, à enregistrer les chansons que j'avais écrites, à en écrire d'autres, etc. Où je me suis dit, mais après tout, ben oui, au lieu de chanter les chansons des autres, je vais enfin assumer les miennes.
Alors, on va passer très vite, parce que je veux absolument revenir sur... Marianne, auteur, compositeur, interprète. Mm-hmm. Je veux qu'on parle de votre CD, comment il est né, etc. C'est des questions que je vous poserai tout de suite après, mais Une toute petite parenthèse, Marianne. On a dit en début d'émission que vous travaillez pour plusieurs maisons d'édition. Oui. Vous pouvez juste nous en toucher deux mots, mais très, très rapidement.
Très rapidement. Lorsque je suis rentrée d'Égypte avec mon mari, il a fallu bien sûr que je trouve un boulot. Et il se trouve qu'en Égypte, j'avais travaillé pour un centre scientifique, une branche du CNRS en France, qui me faisait faire des traductions d'articles d'anglais au français. Donc, j'avais déjà commencé à travailler dans la publication. Ce qui fait qu'en rentrant en France, j'ai cherché du boulot. J'avais une copine qui était chez Hachette à l'époque, donc qui m'a fait bosser ponctuellement comme correctrice. Et de fil en aiguille, j'ai appris le métier de correctrice et j'ai connu plusieurs maisons. J'ai travaillé pour plusieurs maisons d'édition. J'ai fait du rewriting, de la traduction. Et voilà, et c'est mon métier, c'est mon gagne-pain depuis l'âge de 29 ans à peu près. Donc ça fait quasiment une trentaine
beaucoup.
D'années. Ben oui, c'est ça. En fait, j'ai payé
ça,
pour lire.
Ça, vous faites en freelance ?
Non, alors j'ai un double statut. Je suis, pour certaines maisons d'édition, je suis salariée, mais à la pige. J'ai jamais eu de fixe. Et pour d'autres, je suis auteur. J'ai touché droit d'auteur, mais au forfait, pas aux ventes. Voilà.
D'accord.
Donc c'est mon gagne-pain, en fait. Et la chanson, à côté, écoutez, c'est ça fait partie de ma vie. Je ne gagne
c'est
pas ma vie avec
équilibre.
Ça. Oui, c'est mon équilibre. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, c'est moi, quoi. Donc,
alors, vous allez me parler de l'album,
oui.
Hein, puisque je l'ai entre les mains, là, d'ailleurs. Toi qui chantes, toutes les chansons, c'est vous qui les avez écrites,
oui.
La musique composée,
oui.
Tout est fait maison, j'ai envie de dire.
Tout est fait maison. Ouais.
Alors, en plus, on retrouve votre amour pour la nature, puisque quand on ouvre, il y a de très, très jolies photos.
Dans une forêt.
Dans une forêt. Donc là, je pense que c'est vraiment tout ce qui vous tient à cœur, qui est réuni.
C'est ça, exactement.
On a entendu une première chanson. J'aimerais qu'on ait le temps d'en écouter une deuxième. Je pense que plutôt que d'avoir le générique de fin, je m'adresse à Jean-Loup, à la technique. Exceptionnellement, au lieu d'avoir le générique de fin, on passera une deuxième de
c'est
vos
gentil.
Chansons. C'est gentil, mais non, c'est pas gentil. C'est parce que c'est important que les auditeurs vous entendent, parce que toute votre vie, toute votre sensibilité, on la retrouve bien évidemment dans vos chansons.
Ah, ça, ouais.
Et on ressent tellement que chacune des paroles écrites sur chacune des chansons ne l'est pas par hasard.
Tout à fait. C'est très bien vu, Irène. Oui, oui. C'est chaque chanson est un petit morceau de ma vie. Et d'ailleurs, dans ce disque que vous tenez entre les mains, il y en a qui sont très, très anciennes. Qui date de mes années, je sais pas, de ma vingtaine d'années, etc. Quoi. Enfin, quand j'avais 20 et quelques années, j'ai écrit tout cet album. En fait, quand j'ai décidé de le faire, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai vraiment tout mis parce que je me dis c'est peut-être le seul album que je vais faire dans ma vie. Et j'y ai effectivement tout mis, c'est-à-dire
vos tripes.
Ouais, mon histoire personnelle. Depuis l'âge de 20 ans, depuis que j'ai commencé à écrire, même avant ça, depuis que j'ai commencé à écrire des chansons. D'ailleurs, la plus ancienne sur ce disque, c'est La mer est blanche, que j'avais écrite aux Antilles, d'ailleurs. Et donc, quand j'avais 19 ans, quoi. Et donc, ce qui me tenait à cœur, c'était d'y mettre effectivement tout ce que j'aimais, c'est-à-dire cette attirance pour l'Orient, puisque j'ai quand même une grande partie de ma vie qui se passe dans l'Orient et en Orient et à tout jamais, puisque mes enfants sont moitié-moitié, sont franco-égyptiens, donc l'Égypte fait partie de ma vie à tout jamais, donc j'adore la musique.
Vos enfants connaissent l'Égypte ?
Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, il était important pour moi qu'il y ait de la musique orientale et également de la musique celtique, parce que ça, la musique celtique, c'est plutôt un goût personnel. J'ai toujours adoré la musique bretonne, Malicorne, Alan Stivell, etc. Et j'ai eu la chance, la grande chance, de me faire accompagner sur cet album par Dominique Rejeff, qui est un grand musicien multi-instrumentiste spécialiste de la vielle à roue en France. Et qui a d'ailleurs beaucoup travaillé pour Malicorne. Il a été musicien de Malicorne à un moment, dans les années 80 ou 70. Et c'est lui qui a fait la plupart des arrangements de mon album. Et à côté de ça, je me suis aussi entourée de Brahim Dour, qui est un excellent musicien virtuose marocain qui joue du oud, du violon et des percussions marocaines, qui a aussi fait quelques arrangements sur mon album. Donc j'étais vraiment heureuse de réunir mes deux amours, finalement, qui sont la musique celtique et la musique orientale, et qui correspondent complètement à ce que je suis, quoi, finalement.
Alors, Marianne, toi qui chantes,
Si on veut se procurer votre album, on fait comment ?
On va sur mon site, donc marianne-colombier.fr, et puis on va sur la page acheter l'album.
D'accord.
C'est très facile.
Vous avez une page Facebook ?
J'ai une page Facebook, oui, mais elle n'est pas très bien entretenue. Donc il vaut mieux aller sur mon site.
Il vaut mieux aller sur votre site. Ouais. Est-ce que vous vous produisez ?
Oui, de temps en temps, quand je trouve que des gens qui veulent bien me programmer. Donc récemment, là, tout récemment, vendredi, j'ai chanté au Caméléon, qui est un petit café associatif très sympathique à Saint-Cyprien, rue du Pont-Saint-Pierre.
Rue du Pont-Saint-Pierre, oui, au 19.
Hein. Voilà.
C'était chouette ?
Très sympa. C'était vachement sympa, parce que c'est minuscule, c'est vraiment très intimiste, et moi, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est vraiment faire des soirées de... Déjà, mes chansons en elles-mêmes sont très intimistes. Et quand en plus, ça se passe dans un petit lieu avec une jauge d'une vingtaine de personnes, où on est vraiment comme dans un salon, quoi. En plus, il n'y avait que des copains, évidemment. Donc, c'était vraiment très, très sympa. Très sympa. J'ai testé les deux. Quand j'ai sorti mon album en 2011, évidemment, j'ai fait en sorte de jouer le plus possible. Et il m'est arrivé de jouer dans des vraies scènes, avec une vraie estrade, avec... voilà. C'est très bien, c'est très...
Mais c'est moins votre
élément. C'est très sympa, mais c'est moins mon élément, ouais, parce que... Bon, déjà, c'est ridicule, parce que j'attire personne. Enfin, je veux dire, je me suis retrouvée à Paris dans un théâtre avec une jauge de 200 personnes où on était 20. Donc, c'est un peu idiot. Mais... et puis, en plus, bon... c'est vrai que moi, ce qui me plaît, c'est le contact. C'est pas du tout...
Bien sûr.
Le hiatus entre l'artiste et le public. C'est la communication qui m'intéresse, c'est le partage.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr.
Et donc, je fais ça aussi de temps en temps chez l'habitant, et ça, j'adore ça aussi. Il y a des gens qui, je ne sais pas si vous êtes au courant, de plus en plus, ça se fait, des gens qui organisent des spectacles à domicile, des personnes comme vous et moi qui ont un coup de cœur pour un artiste et qui ont envie de le faire connaître à leurs proches, ou même c'est même ouvert à n'importe qui, même à des gens qui ne connaissent pas les accueillants. Et donc, ça se passe à domicile. Ça se termine en général par une auberge espagnole où tout le monde mange et boit après le spectacle. Et c'est super sympa. Ouais, c'est vraiment
c'est
ça qui m'intéresse.
Ouais. Est-ce que vous avez un téléphone peut-être à donner à nos auditeurs si quelqu'un souhaite justement se rapprocher de vous pour ce genre de soirée à organiser ?
Oh, je peux donner tout à fait mon téléphone. C'est aussi très facile d'aller sur mon site, mais de me contacter par le site. Mais si c'est plus simple, c'est le 06 72 71 31 61.
Marianne, j'ai été ravie de vous découvrir. Parce que vous êtes
tout
en sensibilité. Et je vous remercie vraiment d'être venue dans mon émission Ainsi va la vie. Je propose, pour clôturer l'émission, d'écouter une deuxième chanson. Et alors, je vous laisse annoncer le titre de cette deuxième chanson que nous allons écouter.
C'est Rumonge. C'est une chanson très ancienne aussi.
Merci beaucoup, Marianne.
Merci, Irène, de votre accueil.
Au revoir.
Merci. Merci à Jean-Loup. Au revoir.
Je descends la rue Monge, mes rêves volent vers lui. Ma tête est pleine de songes qui me préparent à la nuit. En descendant la rue Monge, je marche sur du velours. Malgré moi, mon pas s'allonge, car je vais vers mon amour.